Europe 1. Zenobi. Il flotte autour de ce nom un sulfureux parfum d'exotisme. La reine guerrière de l'antique Palmyre s'est imposée comme impératrice d'Orient alors que l'Empire romain était en pleine crise politique, militaire et en proie aux raids des peuples barbares. Admirée des chroniqueurs romains pourtant misogynes, elle se heurte au nouvel empereur Aurélien, déterminé à reprendre l'Orient et à remettre la reine à sa place de femme selon les standards romains, c'est-à-dire à la maison. Je suis Virginie Giraud et je vous invite à me suivre au cœur de l'histoire, un podcast Europe 1 Studio. Zenobie, reine de Palmyre. Nous sommes à la fin de l'été 272 après Jésus-Christ. La reine des reines, l'impératrice Zenobie, a fui sa cité de Palmyre en actuelle Syrie à dos de chameaux. Après plusieurs défaites contre les Romains, elle espère trouver refuge auprès du roi perse, l'ennemi intime de Rome en Orient. Mais alors qu'elle arrive tout près de l'Euphrate, la reine est arrêtée par l'armée de l'empereur Aurélien. On force Zenobie à descendre de sa monture et on la mène devant son vainqueur. L'empereur observe cette belle femme au regard noir de jais, brillant d'intensité. Ses cheveux bruns sont en partie dissimulés sous son casque. Une longue écharpe pourpre bordée de franges couvre le haut de son buste. Elle est décorée d'une broche en forme d'escargot constituée d'une pierre précieuse qui a naturellement la forme de cet animal. C'est le seul élément de coquetterie féminine de cette Athéna orientale. Même captive, la reine conserve son port altier de meneuse d'hommes. L'empereur est un soldat qui a gravi les échelons, il n'est pas du genre à se laisser impressionner. Pourtant, en son fort intérieur, il admet que la souveraine inspire le respect. Reprenant de sa superbe, Aurélien lui dit
« Alors, Zenobie, tu as osé insulter les empereurs romains ?»
La souveraine lui répond avec un aplomb déconcertant.
« Toi qui remportes les victoires, je te considère bien comme un empereur. Mais Galien, Auréolus et tous les autres princes, je ne les ai jamais regardés comme tels. »
Julie Aurélie Septimia Zenobie naît à Palmyre entre 230 et 240 après Jésus-Christ. Elle est probablement issue d'une riche famille de l'aristocratie marchande de la cité caravanière située dans une oasis du désert syrien. Son nom complet laisse entendre que sa famille a accédé à la citoyenneté romaine il y a bien longtemps, dès le 1er siècle de notre ère. En général, les familles étrangères qui portent le nom de Jules ou Julia ont reçu la citoyenneté de la part d'un empereur julio-claudien. Zenobie est donc de ces orientales qui se sentent appartenir à l'élite romaine. La ville sémite de Tadmor, ou Palmyre pour les Grecs, est devenue une colonie romaine grâce au général Germanicus entre 17 et 19 de notre ère. Placée sur un grand axe commercial avec l'Asie, à la limite de l'Empire perse voisin, elle est l'une des cités les plus prospères de l'Orient romain. L'aristocratie marchande commande la ville et sa région, royaume vassal, inféodé à Rome. Comme la majorité des filles de bonne famille orientale, Zenobie reçoit une bonne éducation. Elle sait lire et écrire, elle aurait même rédigé un livre. Elle est polyglotte, elle parle le dialecte local de Palmyre ainsi que le grec. Elle connaît aussi le latin, mais elle ne le parle pas assez bien pour oser en faire usage au quotidien. Il semblerait qu'elle ait appris à chasser aussi, et ça, c'est pas banal pour une femme. Dans les sources, elle est décrite physiquement comme une femme de type arabe, d'une grande beauté, brune à la peau mate avec des yeux noirs. On lui prête aussi une autorité naturelle, une capacité à diriger les hommes et un charisme tout à fait masculin selon les standards de l'Antiquité. Cette féminité physique exacerbée et son caractère décrit comme viril font d'elle une femme très impressionnante dans les yeux des gens de son époque, comme si elle faisait la synthèse du meilleur des deux genres. Aux alentours des années 250, Zenobie épouse le roi de Palmyre, Odénate. Celui-ci a une vingtaine d'années de plus qu'elle et déjà deux fils. L'un semble être mort jeune et l'autre est déjà associé à son pouvoir comme successeur. Zénobie lui donne d'autres enfants. On ne sait pas trop combien. Selon les chroniqueurs romains, elle était si chaste qu'elle ne couchait avec son mari que dans l'espoir d'être enceinte. Honnêtement, les chroniqueurs romains n'ont aucun moyen de le savoir, mais c'est une façon de dire qu'elle était à leurs yeux une femme respectable, c'est-à-dire une femme sans goût pour la sensualité. Le partage utilitaire du lit de son mari lui permet donc de devenir la mère d'au moins un fils connu sous le nom de Vabalate, mais cet enfant n'est que le cadet du roi Odénate. Comme la reine est ambitieuse, elle déteste son beau-fils qui fait de l'ombre à son propre enfant. Alors que Zénobie s'emploie à la perfection à jouer son rôle de marâtre, l'Empire romain est en train de s'effondrer. Depuis la chute de la dynastie des Sévères en 235, l'Empire est entré dans une crise politique qu'on appelle parfois l'anarchie militaire. En l'absence d'empereur légitime par le sang, les militaires les plus hardis se disputent la pourpre. C'est comme ça qu'on appelle la couleur du pouvoir à l'époque, c'est celle des empereurs romains. Et donc, presque chaque nouvel empereur-soldat périt dans un complot au bout de quelques années de règne, et bien souvent, plusieurs ambitieux se déclarent empereurs en même temps. Évidemment, la multiplicité des empereurs déclenche des guerres civiles alors même que la pression des peuples barbares fragilise les frontières d'un empire plus vaste que notre actuelle Europe. À cela s'ajoute une crise économique, des famines, des maladies, des problèmes climatiques, bref, on s'achemine gentiment vers la chute de l'Empire romain. En 253, le nouvel empereur Valérien s'efforce de redresser l'Empire. Il fait de son fils Galien le co-empereur chargé de la sécurité de l'Occident pendant qu'il part livrer bataille contre les Perses en Orient. Hélas, en 260, il est capturé par le souverain perse. Tous les généraux ambitieux en profitent alors pour se faire acclamer empereur par leur armée pendant que Galien n'en finit pas de mener une vie de luxe et de loisirs dans la capitale. En souverain vassal de Rome, Odénate considère qu'il est de son devoir de maintenir l'Orient romain hors de la crise. Il s'impose comme le chef de la rive orientale de la Méditerranée et livre bataille contre les Perses pour venger Valérien. Ses victoires lui valent le titre honorifique de correcteur de tout l'Orient. Mais en 267, Odénate et son fils sont assassinés par Maeonius, un cousin jaloux de ses succès. Certains prétendent que Zénobie aurait armé la main de Maeonius pour se débarrasser de son beau-fils, mais du point de vue de l'historien, ça semble cousu de fil blanc. Quoi qu'il en soit, Zénobie, déjà très présente au pouvoir auprès de son mari, prend la régence pour son fils Vabalate. Dans les royaumes orientaux, les femmes prenaient souvent le pouvoir quand les hommes faisaient défaut, donc il n'y a rien d'étonnant à cela. Formée au pouvoir, elle s'avère une excellente gouvernante qui gère avec bon sens ses ressources et sait se faire respecter de ses fonctionnaires et de ses soldats. En outre, Zénobie, qui prend le titre perse de reine des reines ou celui de mère du roi, se voit en guerrière. Elle commence par poursuivre la mission de pacification de l'Orient pour le compte de l'Empire romain, entreprise par son mari. Elle harangue ses soldats coiffés d'un casque, les bras nus, et parés d'une étole pourpre bordée de franges et de pierreries en guise de chlamyde, c'est-à-dire de manteau de général. Bien que femme, elle peut compter sur le soutien de ses généraux et des chefs de clan du désert alentour. Personne ne met en doute l'autorité de leur domina, leur dame, leur maîtresse en latin. Avec eux, elle commence par étendre sa zone d'autorité vers le nord jusqu'à Ancyre, la région qui correspond à Ankara en Turquie. Puis elle se lance à la conquête du sud jusqu'à Bosra, située dans le sud actuel de la Syrie. Voilà maintenant Zénobie, seule maîtresse de la route des Indes. Grisée par ses succès, alors que plusieurs usurpateurs romains se déchirent en Occident tout en tâchant de garder les frontières attaquées par les Goths et les Scythes, Zénobie décide de conquérir l'Égypte, qui est depuis la mort de Cléopâtre, une province impériale romaine. Cette envie, qui pourrait la faire passer aux yeux des Romains pour une reine ennemie, lui vient de son ascendance supposée. Elle serait une descendante de Cléopâtre. Mais la reine n'entreprend pas cette guerre de conquête que pour le prestige. L'Égypte est le grenier à blé de l'Empire romain, et si elle contrôle la région, elle pourrait mettre à genoux tous les usurpateurs en privant leur armée de ravitaillement. Comme l'Égypte n'a pas les moyens militaires de se défendre, elle tombe vite. Dès 270, l'Empire palmyrénien s'étend de la Turquie au sud du Nil. Mais officiellement, Zénobie ne fait pas sécession avec l'Empire romain. D'ailleurs, ce sont les monnaies qu'elle fait frapper qui le prouvent. Les monnaies dans l'Antiquité, c'est un peu comme un tract politique. Ça dit qui gouverne et quelles sont les valeurs défendues par le pouvoir. Eh bien, sur les monnaies de Zénobie, on peut voir son fils Vabalat au droit et le nouvel empereur romain Aurélien au revers. C'est comme si, dans la rue, on vous donnait un tract pour vous expliquer que maintenant, il y a deux empereurs, et le plus important, c'est celui qui est au droit, c'est Vabalat. Dans la série de monnaies suivantes, Zénobie va plus loin. Elle indique que Vabalat en est à sa quatrième année de règne, alors qu'Aurélien en est à sa première, ce qui rend son fils plus légitime qu'Aurélien. Elle veut imposer comme un état de fait son fils en tant qu'empereur romain d'Orient. C'est sacrément culotté. Et pour finir, plusieurs objets archéologiques, comme d'autres monnaies et des bornes miliaires, témoignent du fait qu'elle s'autorise à porter le titre d'Augusta, c'est-à-dire celui d'impératrice romaine, et elle donne elle-même le titre d'Auguste, c'est-à-dire d'empereur romain, à son propre fils. J'aime autant vous dire que le nouvel empereur Aurélien, qui s'est hissé au sommet du pouvoir par le mérite, l'audace et le glaive, ne le prend pas très bien. Vu de Rome, Zénobie et son fils sont en train d'usurper le pouvoir en Orient, voire même de créer un nouvel empire entre Rome et la Perse. Soyons honnêtes, en Occident, c'est le chaos. Mais en Orient, tout va bien grâce à la poigne de Zénobie. Néanmoins, le nouvel empereur Aurélien ne peut pas laisser l'Orient devenir un empire dans l'Empire, qui plus est, aux mains d'une femme. Après avoir stabilisé la situation en Occident, il fonce en Bithynie avec son armée du côté de la Turquie, donc, pour soumettre la reine rebelle. Certes, l'armée de Zénobie est puissante, mais elle n'est rien face à la discipline et à la stratégie de l'armée romaine qu'elle affronte pour la première fois à Tyane, en Anatolie. La défaite est cinglante. Cependant, Aurélien n'engage aucune représailles contre les habitants de la région qui avaient accepté l'autorité de Zénobie. Il espère les ramener dans le giron de Rome sans peine en montrant sa magnanimité. Et vous savez quoi ? Ça marche. Aurélien se lance ensuite à la poursuite de Zénobie qui fuit vers Palmyre. La reine perd deux nouvelles batailles, l'une près de l'Oronte et l'autre à Émèse. La voilà maintenant retranchée dans sa cité, qui n'a aucune muraille défensive. Seul le climat désertique, auquel les troupes romaines ne sont guère habituées, joue en sa faveur. Mais c'est bien peu. Zénobie tente alors la voie diplomatique, mais sa tentative de négociation échoue. Alors en août 272, l'impératrice tente de fuir en Perse pour échapper à Aurélien. Elle est rattrapée près de l'Euphrate. La voilà prisonnière d'Aurélien qui la ramène en captive à Rome avec son fils ou ses enfants après avoir réaffirmé son autorité en Orient. De retour dans la capitale italienne, l'empereur organise son triomphe, une grande procession militaire en l'honneur de sa victoire. La belle Zénobie est promenée dans le cortège en captive, parée de lourdes chaînes d'or incrustées de bijoux. Le poids de cette humiliante parure est si lourd qu'elle doit faire de fréquentes pauses pour reprendre son souffle. Par respect pour cette reine à l'âme virile, comme on disait à l'époque, pour cette femme si impérieuse qu'elle suscitait l'admiration de tout un chacun, Aurélien ne fait pas tuer la reine rebelle. Il lui impose de vivre en simple particulière dans une belle villa près de Tivoli. La reine guerrière est rabaissée au rang de matrone. Tout est redevenu normal du point de vue des Romains. Zénobie finit sans doute par mourir de sa belle mort, et on dit qu'au siècle suivant, ses descendants vivaient toujours à Rome. Reste une question. Pourquoi les Romains, si misogynes, si sévères avec les femmes de pouvoir, admirent-ils tant Zénobie ? La raison est simple. Pour prouver à quel point les nombreux empereurs des années 250-260 étaient mauvais, il fallait leur opposer une femme. En gros, ils étaient si nuls qu'une femme gouvernait mieux qu'eux. Mais attention, il fallait faire de cette femme une super-héroïne pour valoriser son vainqueur, l'empereur Aurélien. Sinon, un homme qui bat une femme à la guerre, c'est pas très glorieux. C'est donc bien par le prisme déformant des chroniqueurs romains que l'on connaît l'histoire de Zénobie. Cependant, les sources archéologiques prouvent qu'elle a été une grande chef d'État et qu'elle se rêvait probablement une impératrice romaine plus capable de régner que les usurpateurs qui tombaient les uns après les autres. Ambitieuse, charismatique et audacieuse, on comprend mieux pourquoi elle est devenue un mythe romantique et même un parangon de femme de pouvoir. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio, et comme l'armée romaine, elle a sa légion. À la production, la générale Camille Bichler. À la réalisation, le centurion Pierre Casalo. À la direction artistique et à la composition des musiques originales, le sonneur de trompette Julien Tarot et le second sonneur de trompette Sébastien Guidis. Troupe auxiliaire, Nathan Laporte et Kelly Decroix. Et moi, votre Augusta, je vous retrouve tous les jours sur l'appli Europe 1 et votre plateforme de podcast préférée, ainsi que tous les week-ends à 15h sur l'antenne d'Europe 1. À bientôt.